France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, retrouvons Maria Callas en 1965 dans la deuxième émission que Micheline Banzel lui avait consacrée sur France Musique dans sa série « Trois jours avec ». La légendaire Callas se confie en français sur son quotidien et évoque son instinct de musicienne, son besoin de solitude, son humilité et sa lucidité. Je vous laisse sous le charme de la divine Callas.
Oh! Cette jeune Rosine, c'est l'un des premiers disques célèbres de Maria Callas, l'un des plus familiers. Joyeuse et juvénile, elle l'est toujours. Féminine et tendre, ferme et clairvoyante aussi. Et vous serez auprès d'elle tout à l'heure, auprès de Madame Callas, celle dont on ne peut parler qu'avec le ton du respect et de l'admiration. Mais avant, deux visages de Maria Callas s'offrent à nous, deux personnages de Verdi, deux héroïnes d'un même opéra. La hautaine et altière princesse d'Eboli, la femme jalouse et blessée d'abord.
Ti maledico, oh mio!
Maria Callas incarne les deux héroïnes du Don Carlos de Verdi, l'éclat et la révolte jalouse de la princesse d'Eboli, et puis la tendresse d'Élisabeth de Valois maintenant. Maria Callas, nous avons fait un petit entracte, c'était bien normal, vous aviez un peu soif, je crois, et vous venez de parler avec un certain appétit dans l'œil, je dois dire, du plaisir qu'on peut avoir à manger des gâteaux. Est-ce que vous êtes obligée de vous imposer une certaine discipline culinaire?
Ah, hélas, oui, parce que nous sommes très liés à l'appareil digestif, Et alors, c'est-à-dire, on est énervé, et quand on est énervé, la digestion n'est pas parfaite. Et alors, évidemment, qu'on n'est pas, enfin, qu'on n'a pas digéré bien, on ne peut pas
Bien chanté.
bien chanter, ou même aussi le cerveau ne travaille pas. C'est question de savoir diriger la voix, parce que ce n'est pas seulement la voix, c'est la scène, c'est comment se tourner, comment. Mille choses
Il faut avoir la
automatiques dans le
tête
même
très
moment, oui,
claire, évidemment.
très clair.
Et alors, vous-même, quand vous abordez un rôle, est-ce que vous avez besoin d'une certaine affinité avec le personnage que vous allez jouer?
Bon, ça c'est un peu difficile. Vous savez, avec le personnage, on doit pénétrer, on cherche de pénétrer dans ce que c'était. Et sur ça, on dit, si j'étais celle-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Évidemment, on cherche de se changer beaucoup. Mais il faut se changer en étant elle-même. C'est-à-dire, tu dois être toi-même avec ses idées. On change, mais c'est à toi. C'est pas fabrication. Il faut que tu sens exactement ce que l'autre aura fait.
Ce n'est pas une copie, en
Ah non,
somme.
non, non.
Ce n'est
Mais
pas un
copie de
masque
quoi?
ôté et de quelque
Qu'est-ce
chose qu'on peut
de...
imaginer,
Mais il y a
simplement,
une
ça.
copie de quelque chose.
Oui. Mais
Il n'y
est-ce
a
que vous
rien.
croyez qu'il est nécessaire, justement, en ce moment-là, d'essayer de savoir quel est le contexte historique, quelle était
Oh,
l'époque et toutes ces choses-là, ou au fond,
oui,
c'est
mais
une...
pas tout à fait, parce que, écoutez, moi j'ai fait Anne Boleyn,
Oui.
et je vous assure que ce que l'histoire dit et ce que l'opéra dit est bien autre chose.
Bien différent.
Et
Donc c'est
alors, j'ai pas
plutôt...
voulu lire, j'ai commencé à lire, j'ai vu que c'était pas tout à fait. Oh, au contraire, c'était tout à fait le contraire, alors j'ai arrêté, c'est tout. Alors on apprend comment elle était habillée, comment une reine de cette époque aurait à peu près agi et tout ça. Mais évidemment, si c'est un personnage, comme l'histoire dit que c'est bien, elle est bien légère et tout ça, et dans l'opéra, elle était une victime douloureuse et tout ça, et alors on peut pas, on ne doit plus chercher de regarder ces choses-là.
Donc, on doit apporter.
On
Ah,
doit
c'est
être plutôt
plutôt une
très
approche
élastique.
psychologique, en somme, d'après le texte et le livret
Oui,
lui-même.
et puis cet instinct, ma chère.
C'est l'instinct
C'est
surtout.
l'instinct, le premier instinct que tu portes tout de suite sur ça. Sur ça, puis après, tu travailles les détails. Mais c'est l'instinct tout de suite.
Et est-ce que l'instinct pour vous, c'est musique et parole en même temps, ou est-ce que c'est d'abord la parole? Est-ce que c'est d'abord de ce
D'abord
que
la
dit
musique.
cette femme?
D'abord la musique.
D'abord la
Parce que
musique.
qui a fait la musique l'a fait sur les paroles. Ils n'étaient pas si bêtes que ça. Et
Alors, vous vous
alors.
plongez d'abord dans le bain musical.
Et sûrement. Sûrement.
Et
Et puis,
ensuite.
on cherche de marier les deux choses ensemble.
Et de voir qui était la femme aussi.
Et non, et oui, mais surtout, il faut savoir le musicien qui a fait l'opéra. Parce que lui, il faut être le premier à être respecté.
Alors, vous avez eu quand même à étudier de près les biographies des compositeurs, essayer de savoir quel personnage humainement ils étaient, bien
Non,
entendu.
on le voit tout de suite musicalement.
La partition suffit à votre
La
avis.
musique suffit à expliquer tout. Et si on m'entend bien, moi, j'en suis sûre que qui a de sensibilité peut comprendre de ce que je suis faite.
Je me rappelle que quand je vous ai vu à Milan, vous avez beaucoup insisté, vous discutiez avec le docteur Ghiringhelli sur le côté jeu dans l'opéra, en somme, et il me semble, si je me souviens bien, que vous estimiez que l'opéra, c'était d'abord une action dramatique, en somme, et du théâtre, et qu'il ne fallait pas l'oublier, jamais l'oublier, en
Ah, bien
somme, à
sûrement.
cause de la voix. C'est toujours votre idée?
Toujours, et j'insiste sur ça, et il y a les preuves que la jeunesse ne va pas si c'est pas quelque chose de sérieux, de bon, parce que franchement, ça peut être une chose très ennuyante s'il y a seulement la voix, et il y a des gens là-bas sur scène que ne savent pas même agir, enfin, se bouger ou donner une semblance de la vérité qu'ils doivent, sont obligés à faire. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte avec la télévision, avec de l'art beaucoup plus professionnel, et là, évidemment, ils sont habitués à la perfection. Si nous, avec un métier vieux et un peu ennuyant, confessons le bien, parce que quelqu'un qu'au lieu de parler, il dit tout le temps, partons, partons, il reste là tout le temps, évidemment, ça, on ne peut pas persuader le public aujourd'hui. Et vous riez parce que c'est justement
Oui,
comme
mais
ça.
naturellement, c'est
Et
vrai. On
alors il faut,
silence et on fait un bruit
et
terrible.
oui, alors il faut évidemment qu'on cherche de donner beaucoup de vérité à ça. Nous-mêmes, nous rions avec nous-mêmes sur scène, parce qu'il y a des situations bien drôles. Et alors, il faut persuader le public que c'est vrai, ou au moins donner l'illusion d'une vérité.
Mais alors, est-ce qu'on peut apprendre à jouer?
Non.
C'est
On peut
impossible.
améliorer, mais on est né pour ça, on n'est pas né.
Et alors, quel est le rôle du metteur en scène? Parce qu'enfin, le metteur en scène d'opéra se considère comme quelqu'un de très important. Est-ce qu'il
Pour
l'est vraiment?
faire, pour donner des idées, pour aider, te donner des idées, pour te donner un joli décor. Mais il ne faut pas, évidemment, des fois être écrasé par le décor.
Est-ce qu'on vous montre vos décors avant que vous interprétiez?
Oui, évidemment. Maintenant, enfin, je cherche de collaborer avec le metteur en scène et le décorateur. Et alors, sur ma personnalité, il cherche de faire, évidemment, servir le texte et le théâtre.
Donc, le théâtre doit quand même être une œuvre d'équipe avant tout, si on veut vraiment
voilà,
avoir le maximum
tout à fait.
De réussite.
Voilà, c'est une, justement, comme vous avez dit, c'est une collaboration.
Mais est-ce pratiquement possible?
Tout à fait. S'il y a d'humilité dans le travail, tout à fait possible.
Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est possible de réunir un chef d'orchestre, les principaux protagonistes vocaux, un metteur en scène et un peintre
c'est
de
possible.
Même qualité, ayant une sensibilité relativement analogue, ou du moins qui va pouvoir travailler en commun? Dans les temps actuels où les meilleurs sont arrachés à tous les bouts du monde, est-ce que c'est pratiquement possible de les réunir?
Pour faire une compagnie aujourd'hui, vraiment une sérieuse compagnie, on ne va pas aimer ce que je dis, mes collègues sûrement, mais, mais c'est pratiquement presque impossible.
C'est ce qui me semblait, c'est que vous comptez sur
d'abord,
les doigts d'une...
D'abord, il n'y a pas la sensibilité, disons, il y a des très jolis bois. Il n'y a pas cette
décide.
Sensibilité, disons, que je sens, il y a beaucoup de, aussi des metteurs en scène, beaucoup non, mais plusieurs, enfin deux, trois. Et des chefs d'orchestre, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et, mais ce qu'il passe, de teneur et de baryton, il y en a. Mais il ne prend pas le temps pour se comprendre, pour absorber, pour, je ne sais pas, comprendre cette chose-là. Ils sont toujours en train de sauter par une côté par l'autre, chanter. Et puis dans notre métier, il faut beaucoup de choses. Il faut le physique. Il faut savoir jouer sur scène et il faut parler bien. Disons, parler avec la voix, avoir l'addiction.
L'addiction.
La musique, d'abord, il faut la respecter parce qu'il y a le langage musical, tout d'abord, à respecter. Il ne prend pas le temps pour ça maintenant. Il veut gagner de l'argent, faire des notes aiguës, à impressionner le public et porter le bourgeois, enfin, disons, et s'en aller. Mais c'est pas ça la musique.
Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie, dans votre carrière, peut-être avant
oui.
d'arriver très haut, où vous n'avez justement pas eu le temps de penser, ou est-ce que vous avez toujours trouvé le temps de vous arrêter, de réfléchir?
Non, moi j'ai toujours eu le temps, parce que d'abord je suis une type que je reste beaucoup avec moi-même. J'aime beaucoup la compagnie, mais pas après, disons, une deux heures, je me fatigue. J'ai besoin de rester avec moi-même.
On peut dire que vous n'êtes pas du tout mondaine, au fond.
J'aime aller de temps en temps, je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas y rester. Et peut-être parce que ma carrière aussi m'a porté à rester beaucoup seule. J'aime rester seule, par exemple, je dis une chose qui va étonner beaucoup du monde. J'aime regarder la télévision, j'aime voir des jolis films, j'aime voir les détectives, les westerns, comme tous les personnes humaines. Parce que ça me détend, parce qu'il y a le fond infantile de chacun.
Ça
moi,
propose.
Je l'ai et je ne le cache pas. Je suis même restée toute jeune à ça. Notre métier est très sérieux. Ça nous aide aussi, c'est drôle. Mais toute expérience nous aide avec notre carrière. Et puis, évidemment, je suis humaine comme tout le monde et j'aime me divertir avec des jolis spectacles, disons, pas lourds, pas dramatique tout le temps avec cette tragédie qu'on n'en peut plus.
Mais
j'aime
est-ce
des
que
gens
vous
gays.
Est-ce que vous croyez que justement il est difficile
mais
de
mais je ce que je voulais vous dire je vous
oui,
interromps
oui,
et que je suis habituée à rester seule
oui.
surtout quand je prépare une opéra j'ai besoin d'abord apprendre la musique parce que c'est la première chose puis sur ça on doit rester tout seul à chanter et écouter la musique dans notre tête. Et alors, pouvoir avoir un... Je ne sais pas comment l'expliquer, je n'ai jamais pu l'expliquer d'ailleurs. C'est un monde en nous, dans notre tête, dans notre âme. Quand on voit, disons, le Notre-Dame, je dis une bêtise, pardonnez-moi, je ne sais pas comment le mettre en mots. On le voit là.
Comme un tout.
Mais ça, c'est fait. Nous devons le créer. C'est-à-dire, on voit la musique et on connaît les paroles.
Oui.
Et alors, on le passe dans la tête. Petit à petit, ça se forme. Et on le voit, on le sent, elle est... un morceau entier. Puis sur ça, tu travailles des détails, des choses, des phrases. Mais avant de commencer les grandes répétitions, disons, tu sais exactement à peu près ce qu'il est, ce que tu veux faire, même si tu ne sais pas même un geste faire. C'est-à-dire essayer de créer, c'est muré dans la tête et dans l'âme. Peut-être ce que vous avez entendu, vous pouvez le mettre en mots. Moi, je ne peux pas.
Non, ça me fait penser, vous savez, je vais vous le dire, à une phrase qu'a écrite et qu'a dite Paul Hindemith, le compositeur, et qui disait que le propre du génie d'un compositeur, compositeur de génie, c'est qu'il avait, avant d'écrire l'œuvre, une vision. Et il comparait cette vision totale, comme vous dites la vision de l'opéra, à certaines visions qu'on a pendant les orages, dans la nuit, quand il y a un éclair. Il y a un éclair et on voit brusquement un paysage. Et il dit, parce que c'est soudain et très rapide, on voit tous les détails, on a une vision, on sait exactement ce que c'est. Et puis ça disparaît de nouveau dans le noir. Et le génie, c'est d'arriver à retrouver cette vision, à la reconstituer, à la faire vivre. Je ne sais pas si c'est un génie.
Vous avez parlé de génie, moi je me considère bien loin d'un génie.
Eh bien, lui-même se considère vraiment comme un génie.
Je vous remercie infiniment, mais c'est pas tout à fait. C'est bien loin de ce que
lui-même
je voulais
était
dire.
Peut-être moins modeste ou plus réaliste et disait la différence entre un compositeur de génie et un compositeur de talent. Alors, je pense que je vais dire à votre place la différence entre une grande cantatrice de talent et une grande cantatrice de génie. C'est que celle qui a du génie a cette vision, alors que l'autre n'a
que
cette vision.
Mais c'est une vision dans l'âme, vous savez. C'est pas seulement le cervelle. Parce que le cervelle, d'abord, commence à dire ça, c'est logique, ça, il faut faire. Puis, à un certain moment, le cervelle s'arrête complètement et tu te laisses partir.
C'est ça, oui, c'est une sensation.
C'est une sensation, c'est quelque chose que te guide à même faire des gestes, à faire des calculations automatiques sur l'instinct, que tu ne te rends pas compte.
C'est là, on est obligé d'employer le mot génie, même si vous n'aimez pas, parce que c'est quand même le mot qui convient, au point de vue vocabulaire, en français, il n'y en a pas d'autres, je crois, qui disent
c'est
ça.
C'est très embarrassé.
Exactement.
Continuons,
alors passons là-dessus, changeons.
Oui, oui, oui.
Dans cette vision que vous avez eue, d'une manière géniale ou non, va quand même se greffer un élément qui peut être peut-être gênant, c'est le partenaire, parce qu'enfin, vous ne choisissez pas toujours votre partenaire.
Hélas,
monsieur dont vous
pas.
Allez être amoureuse, que vous allez haïr.
Eh oui, sûrement, ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe, là?
Qu'est-ce qui se passe? On cherche d'oublier. Vous savez, sur scène, il y a une très jolie chose, que on oublie souvent ce qu'il passe avec les autres. On est un peu comme avoir des ailes, vous savez. Et ça aussi, c'est une autre chose drôle qu'on sent. On sent beaucoup des choses. On devient très sensible à beaucoup des sensibilités du public. C'est comme une...
un état second.
Oui, 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 tout à fait. On n'appartient plus à nous-mêmes. On se sent énorme. Je ne sais pas comment l'expliquer des fois, mais énorme, comme grande, comme prendre tout le théâtre. Dans nous, ça, c'est toutes des choses dans nous. Des fois, on se sent très petit, tellement petit qu'on veut s'enfuir parce qu'on a honte de ce qu'on fait. Alors, il y a les deux cerveaux que l'un... Le génie, pardon, ce que vous avez appelé génie, ce que nous appelons instinct, que te jette à faire certains gestes, puis tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pas honte, je dois m'en aller. Et alors, on est terrorisé. Alors ça, pendant le spectacle, continue à aller. Et entre-temps, tu dois évidemment chanter, penser, et créer et faire.
Est-ce que quand vous avez chanté à l'opéra et que vous vous retrouvez après un souper seul chez vous, vous avez quelquefois un sentiment un peu de tristesse ou un peu d'effondrement en vous demandant comment était-ce?
Mais c'est beaucoup plus souvent de ce que vous pensez.
C'est le plus souvent ça, on est amené à se critiquer quand on...
Parce que quand vous restez seul, il y a la machine calculatrice de cerveau qui dit, bon, tu as fait ça, et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu étais si bête que ça? Et pourquoi tu n'as pas pu pas le faire? Et alors?
Et est-ce qu'au point où vous en êtes actuellement, on trouve encore des conseils? Je veux dire des conseils amicaux, des gens qui vous aiment assez pour vous dire tu as fait mal ou tu as fait bien pour telle raison.
Et je cherche tout le temps ça.
Vous le trouvez encore?
Oui.
Vous croyez que dans la vie d'une grande artiste, au point où vous en êtes, il y a encore de la place pour de l'amitié sincère?
Oui, sûrement. Mais sûrement aussi les amis qui offrent ces conseils, ils ont un devoir. Il ne faut pas oublier qu'on est très, très amis. Mais il ne faut pas oublier le côté célèbre de nous. Nous ne pouvons pas accepter des conseils donnés avec de mauvaises manières.
Qu'est-ce que vous entendez de mauvaises manières?
Enfin, ma nature, par exemple, est une chose que je ne peux pas être prise par le côté brusque. Alors, si on me donne un conseil brusquement, alors je deviens vraiment sauvage. Tandis qu'avec la bonté, de moi, on peut obtenir tout. Je dis tout, me rendre stupide, au point de la stupidité. Mais avec des modes brusques, alors on peut faire... je ne dis pas un ennemi parce que je ne peux pas être un ennemi. Pas pour l'autre parce que je n'y tiens pas et je ne suis pas capable. De m'en aller et d'oublier tout à fait cette personne, ça c'est ma façon d'être ennemi. Je ne peux pas sentir de la haine et tout ça, mais je peux ignorer complètement. Et ça arrive des fois de me demander si j'ai jamais connu cette personne. Mais, et je retourne sur ce que je disais, les gens que tu dis la vérité, il faut qu'ils fassent attention aussi, parce que nous avons beaucoup d'amour propre. Ça, c'est la fierté qu'on dit de notre caractère. Et on ne peut pas tout nous dire.
Bien sûr, et puis
il faut attendre le moment. Et malheureusement, nous aussi, nous savons des fois ce qu'on va nous dire. Parce qu'on comprend assez de ce qu'on fait, de bien ou de mal. Et alors, quand on nous dit, nous ne nous fâchons pas avec lui, avec nous-mêmes. C'est difficile, vous savez, c'est très difficile. Être célèbre, vouloir aussi être toute petite comme petite élève.
Autrement dit, la personne peut-être qui peut vous donner des conseils, non seulement il faut qu'elle en soit capable sur le plan technique et artistique,
mais il faut qu'elle
vous aime beaucoup aussi, avec tout son cœur, pour essayer de comprendre le moment où elle pourra vous le dire. Est-ce que vous croyez que vous avez eu besoin de beaucoup plus de volonté et d'une certaine manière de vous bâtir en acier, justement, pour à la fois être ce que vous vouliez être dans votre art et rester en même temps une femme?
Mais oui, sûrement, mais vous savez ça, vous dites volonté, c'est pas seulement volonté, je crois pas que c'est même volonté, c'est se défendre, ma chère. Parce que dans la vie, toute femme et homme doit se défendre. Il y a celle qui peut se défendre mieux, celle qui ne peut pas se défendre parce qu'ils sont faibles et ils sont nés comme ça. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir me défendre. Évidemment, ça coûte. Parce que voilà l'autre côté, la femme, qui dit, mais pourquoi je dois me défendre comme ça? Pourquoi je dois me battre tellement? Qu'est-ce que j'ai fait? Au fond, je fais une carrière, j'essaye de donner le mieux de moi-même. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas me faire un coupable de ça. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de la haine pour moi.
En vous voyant, il est bien évident que vous aimez la vie telle qu'elle est, mais j'ai l'impression que vous la voyez avec une assez dure lucidité quand même. Vous n'avez guère d'illusions, ni sur l'être humain, ni sur la vie.
Non, je n'ai pas des illusions. Malheureusement, voilà ce que je veux dire. Après 40 ans, on n'a pas beaucoup d'illusions. Et surtout, moi j'ai une côté qui est très poétique, évidemment, que je cache tout le monde là, je crois. Petit monde à nous-mêmes. Petit coin là, que tout est beau, tout est loyal, tout est merveilleux. Et alors, on croyait qu'il existait quelque part. Maintenant, on sait qu'on l'a créé dans le cervelle, ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup d'autres jolies choses que je n'ai jamais vues avant avec l'œil lucide. Le public que ne te connaît pas, que ne connaît rien de tout ça, et comprend tout ce que tu passes, c'est drôle. Et il est là pourtant, pour t'aider. Même s'il ne te voit pas, il t'écrit, il t'achète des disques, il vient te voir, il te fait des fêtes. Ça, je n'avais pas donné d'attention avant.
Ça, c'est au crédit de la vie, on peut
dire. Ça, c'est au crédit de la vie. Il y a des amis qui te prennent, par exemple, comme tu es. Moi, je suis une grande amie, mais malheureusement, je ne suis pas une type qui se manifeste beaucoup, disons, avec des choses comme les autres, d'être toujours présente, de faire des coups de téléphone, de voir souvent les amis. Et ça, je connais très bien mon caractère. Je vois aussi des défauts. Et malgré ça, mes amis m'aiment, tels que je suis. Ils me voient quand je veux, ils ne me voient pas quand je ne veux pas. Et peut-être ils se fâchent des fois, mais ils ne le montrent pas. Il y a tout, petites choses dans la vie qu'on comprend maintenant, qu'on ne comprenait pas avant. Il y a des défauts de mon caractère, mais évidemment, je vois tout. Comme vous avez dit, j'ai de lucidité. Et comme je critique les autres, je critique moi-même aussi. Je me connais bien. Mais en disant tout ça, peut-être vous dites que je suis cynique et tout ça. Le contraire, c'est le contraire. Je suis lucide, oui. Ça ne veut pas dire cynique.
Cynique, vous savez, c'est un mot qui vous va bien mal. Il ne trouve pas sa place vraiment dans vos lèvres. Et maintenant, il va falloir que nous vous quittions pour retourner au théâtre, où vous nous attendez grâce au disque, dans un opéra que nous n'avons jamais vu, que nous ne verrons probablement jamais, à Roldo de Verdi.
Oh.
Ce bel air de Verdi, il s'agit du rôle de Mina dans l'opéra Aroldo. Maria Callas l'a gravé sur un très beau disque où se trouvent des héroïnes de Verdi plus familières, par exemple Desdémone, Elisabeth de Valois, d'autres encore. Mais Madame Callas, qui parle si bien notre langue, a dû prendre plaisir à incarner l'une de nos héroïnes les plus populaires, la Manon de Massenet. Qui nous écoutez en ce moment, nous savons que vous ne pouvez pas toujours écouter les trois émissions de nos trois jours. Et c'est pourquoi j'ai voulu que chaque jour, des visages très divers de Madame Callas vous soient offerts. Et qu'ainsi, à notre Manon succède la comtesse des Noces de Figaro.
Thank you.
vous avez reconnu les noces de Figaro de Mozart. Le temps nous manque pour offrir ici, à tous ceux qui l'auraient souhaité, l'un des enregistrements les plus célèbres de Maria Callas, cette scène finale de Tosca, qui couple le souffle de tous ceux qui l'écoutent. Maria Callas et Giuseppe Di Stefano, un couple légendaire, une équipe entrée à jamais dans l'histoire du théâtre lyrique et que vous allez retrouver à présent dans un fragment de cette scène.
Mansueta pure, o manierette, a bell'opre pietose, a carezzar fanciulli, a coglier rose, a pregar a giunte per le sfere. Alla morse cura, giustizia alle sue sacre armi nervose. Voi d'estre morte, o mani vittoriose, dolci mansueta.
Senti l'ore vicino, io già raccolsi un gioielli, un'avventura è pronta, ma prima arriva amor, prima sarà
Oh,
Avec cet extrait de la scène finale de Tosca, incarnée par Maria Callas, s'achève la deuxième partie de la série d'entretiens réalisée par Micheline Banzet en janvier 1965 au domicile parisien de la Diva, que les trésors de France Musique vous proposaient d'écouter aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le troisième et dernier épisode. Toutes ces archives sont disponibles à la réécoute de jour comme de nuit sur francemusique.fr sur la page des trésors de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.